Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le lundi 13 juin, il est 8h30 et ce qui est fou, c'est que je viens d'apprendre que les secondes étaient en vacances. Salut Léo.
Salut.
Alors toi t'es en vacances et tu viens faire des stages comme ça à la radio, t'es là ouf.
Et ouais.
Alors qu'est-ce qui t'intéresse à la radio?
Bah à la radio, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment ça marche, puisque je savais pas comment ça marchait.
Quand ça marche d'ailleurs.
Ouais.
Ça marche, tu vas voir tout ça avec nous. Il a fini de se former, il va avec la chaleur, il doit sans doute être comme un poisson dans l'eau à la technique Corto. Salut.
Et oui, salut, bonjour à tous. Je suis un homme nouveau.
Et formé, c'était cool ta formation?
C'était grave cool.
Bon, tu nous en parleras peut-être un de ces quatre, en tout cas en réunion. Parce qu'on a hâte de savoir, à part manger, boire et dormir.
Là, c'était l'essentiel. Ouais, ça... On en a beaucoup plus.
Vive les formations payées par la région, tu m'étonnes. Blague à part, 350 personnes à la première marche des fiertés à Mendes. C'était samedi, c'était cool. Et on diffusera le plateau qu'on a fait avec 48 FM dans la semaine. Le temps qu'on parle en conférence de rédaction, on verra un peu comment, quand on le rediffusera, mais c'était génial. Au programme de cette matinale, nous avons enregistré une interview avec Damien de Primate Circus, c'était vendredi. Ils organisent avec le collectif Home le festival Chap ou pas Chap qui a justement commencé vendredi. On en parle avec lui dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, je suis allé au Sictum à côté de la déchetterie pour parler compost. Ah ben, c'était super intéressant, il s'agissait d'un échange concernant les pratiques et les manières de faire. Et ben, c'est pas si évident que ça. Et là, il s'agira d'un échange avec Léo Martin, qui est chargé du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Et nous étions trois là-bas, et c'était vachement bien, quoi. La musique aujourd'hui, j'ai choisi Java, et on y va par l'édito, pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
C'est lundi pour tout le monde. La pénurie de personnel est massive à la veille de la saison estivale. Salaire, conditions de travail et accès au logement rebutent les salariés. Et il y a un autre facteur qui entre dans l'équation, la réforme de l'assurance chômage qui est passée l'année dernière et qui pénalise et dissuade de l'emploi saisonnier. Elle allait pourtant tout régler, le chômage, la précarité et le manque de main-d'œuvre. Mais moins d'un an plus tard, ce n'est pas franchement l'euphorie. Côté recrutement, c'est même tout à fait le contraire. À la veille d'une saison estivale présentée comme historique en termes de fréquentation, la pénurie de personnel bat des records et frappe durement les secteurs dépendants du tourisme. Hôtels, bars, restaurants, campings, partout en France, les employeurs se désolent de ne pas trouver de saisonniers et de saisonnières. Entre 200 000 et 300 000 emplois seraient non pourvus. La qualité de l'accueil et de service risque d'en pâtir, évidemment. Ce qui devait être la solution miracle, la réforme de l'assurance chômage, fait finalement partie du problème. Et ouais, là où il fallait cotiser 4 mois pour avoir le chômage, aujourd'hui on en est à 6, c'est ballot. De plus, ces salariés saisonniers, saisonnières, donc alternant période de travail et d'inactivité, sont le cœur de cible de la redéfinition des règles. En effet, depuis octobre 2021, la réforme de l'assurance chômage sanctionne en effet les activités professionnelles discontinues. Chaque période non travaillée est désormais prise en compte dans le calcul des allocations. C'est un grand chambardement. Pendant 40 ans, les indemnités ont été définies uniquement à partir d'une moyenne des salaires touchés les jours travaillés et pas les jours off. Mathématiquement donc, vous comprendrez bien, le nouveau mode de calcul fait donc baisser le montant de l'indemnisation chômage. Mais la réforme du chômage devait tout régler. Qui veut bosser? Pourquoi faire? On touche plus rien, ça sert à rien. Allez, Java, je me marre. Bah ouais, tu m'étonnes.
C'est le tien, et le mien c'est le mien. L'accent, mien c'est parisien. Roi de l'argot, tête de chien. J'suis du boulevard, certipar. Vlaçon du comptoir. Le macadam c'est mon terroir. La nature mon cauchemar. Ici ça tchatche, un coup de boutoir. C'est du solide comme les pneumatiques d'Alain Bombard. Vert, si, vert, l'air. Blié, j'te la fais à la Audière. Passe-moi le postulaire. Faut pas
prendre les enfants du bon Dieu pour des canards. Sauvage, fais mon réquisitoire, car je suis furibère, j'ai claqué le beignet de ces gueulards. Sache que la marmite flotte sur le drapeau noir. Entendra la radio toute cette misère, tout le monde mange à la soupe populaire. C'est le désert des tartares, de la Falstar avec des pop-tars. Éteint ta soupe de rose, il faut que je charte à part le rockstar. Y'a les pourpifs qui vont sortir du tiroir. Pas des titis, pousse les potards. J'en rentre dans l'art, mais bon je m'en carre. Je m'en tamponne le coquillard et je me marre.
Je me marre,
je me marre. Parier dans mes tripes comme un polichinelle dans le tiroir. Entretués pour le pouvoir. Et en guise sur un chuchoir, je les vois déjà ces petits branchés en train de me tailler le costard. De juger ce qui est de bon goût dans leur canard. Mais je m'en carre, c'est pas ces blaireaux qui donnent la pété à mes bouffleurs. Moi je me plains, je suis parisien, ingénieur, pleurnichard, un petit peu connard. Mais je joue juste qu'on me laisse peinard. Je suis aigri, je médis, j'aime plus les gens depuis que j'ai compris que je vis. Encore moins ceux qui brandissent l'étendard, qui mettent des barbelés à leur bouclard. Car, comme le dit Brassens, qui a jamais eu besoin de brassard. Y'a que les cons qui sont fiers de venir de quelque part. Et la défaite est un art. Regarde les grands, ceux qui ont marqué l'histoire. Version Piton X, Tigue Six, Maximo Six, quand il a tiré sur la barre. Enfin, je vais pas trop faire le scénar. Quand je parle de ces vies 82, j'ai envie d'y aller, alors au lieu de foutre le cafard. Je me marre,
je me marre,
je me marre. Comme un polichinelle dans le tiroir.
Je me marre.
Ouais, je me marre.
Je me marre.
Je laisse tous ces caps s'entretuer pour le pouvoir.
Même quand on me foutra dans le corbillard, que la faucheuse ira me chatouiller dans mon plumard, j'irai me faire reluquer par des vers dans un trou noir. Paris sera devenu un parc d'attractions pour touristes. J'espère qu'il y aura toujours quelques maquisards pour parler en art. Paris c'est une idée, et même si c'est illusoire, bah j'ai quand même envie d'y croire. Que tu sois d'Algérie, d'Anvers, ou de Zanzibar, Paname soulève sa jupe si t'as la classe de lâcher le pourboire. Voilà c'est une chanson à pas en faire un chélard. Je laisse à ceux qui veulent le pouvoir. Et je me marre,
je me marre,
je me marre,
je me marre.
Parier dans mes tripes comme un polichinelle dans le tiroir. Je me marre,
je me marre,
ouais je me marre,
je me marre.
Je suis pas là brandir l'étendard. Je me marre,
je me marre,
je me marre,
je me marre.
Ni Dieu ni maître, mais une rente. Je me marre,
je me marre,
ouais je me marre,
je me marre.
Mourir pour des idées, oui mais de leur lente. Point barre.
Ça a commencé ce week-end et ça continuera jusqu'au 25 juin, le festival Chape ou pas Chape, passé à Hispaniac. Et pour nous en parler, nous sommes avec Damien, bonjour.
Bonjour Ben.
Tu es par téléphone, cette interview est enregistrée, on a enfin trouvé un créneau, nos emplois du temps sont juste dingues en cette fin d'année. Et puis ce festival-là qui a commencé ce week-end, j'imagine que vous avez été dans le jus.
Exactement, on y est toujours, là on est en fin de montage pour jouer notre spectacle qui est la soirée d'ouverture ce soir. Donc c'est Amor Amar, un spectacle tout public, théâtre, cirque, burlesque. Et ça enchaînera avec un DJ set animé par Cric et Jalat.
On y va donc, Chape ou pas Chape, c'est co-organisé par la compagnie Primart Circus et par le collectif Môme. Alors évidemment, ceux qui sont du coin, on connaît plus ou moins les deux compagnies. Allez, on y va pour ceux qui ne connaîtraient pas. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ces deux collectifs et compagnies?
Alors, la compagnie Primart Circus, c'est une compagnie de promotion des arts du cirque en itinérance sur la Lozère. Donc on fait principalement avec Elsie des ateliers, ateliers scolaires, ateliers hebdomadaires, ateliers avec des publics spécialisés. Voilà, donc en fait, on répond à tous les projets et après, on monte ça avec les équipes.
Alors l'idée, c'est que vous voulez défendre, hein. Ce que vous voulez défendre, c'est l'accès aux arts du cirque pour toutes et tous, c'est ça. Mais pas que, il y aura aussi de la danse, du théâtre, bref, un festival super éclectique.
Voilà, alors l'idée, donc un festival éclectique, un festival de découverte, un festival aussi local, puisque on a invité toutes les compagnies qui ont répondu à l'appel, à savoir Ballet Brosse, il y aura La Source des Femmes, on aura aussi la compagnie 1-2-3 Soleil qui viendra jouer son cabaret clown le 18, et également on organise une fête de la musique avec Nono Lulu en concert gratuit sous chapiteau à 18h pour les enfants. À partir de 19h30, il y aura une scène ouverte avec pas mal d'artistes artistes amateurs pro, semi-pro d'un petit peu tout le coin là autour d'Hispaniac et même de plus loin. Et ça finira alors en, du coup en première premier concert de, des hebdos de l'été. Ce sera le groupe Chouchicha qui fait de la cumbia électro.
Et un gros final le 25 juin dont on parlera dans un instant. Alors c'est la première de ce festival, d'où est partie l'idée assez ambitieuse, hein, je dirais, de créer un festival comme ça?
Oui, alors disons que nous on avait très envie depuis 2 ans de regrouper les enfants de nos ateliers hebdomadaires sous chapiteau. Et il s'est trouvé que cette année, avec la sortie un peu de du Covid, etc., on a été très sollicités, notamment avec les publics scolaires. Donc on s'est dit, bah, tant qu'à monter un chapiteau, autant aussi inviter les scolaires pour leur spectacle de fin de cycle sous le chapiteau. Donc en même temps, voilà, du festival tout public, il y a aussi des écoles qui viendront jouer leur spectacle sous le chapiteau. Il y a aussi, du coup, si je ne me trompe pas, les ateliers voilà, hebdomadaires, ça c'est 18 et 19 juin. Et après, bah, tous les spectacles.
T'as anticipé ma question un peu, est-ce que tu crois que ces 2 années qui viennent de passer nous ont finalement servi de leçon et que ça a permis l'émergence de nouveaux festivals comme Chap ou pas Chap?
J'ai l'impression. En tous les cas, là, je vois qu'à partir de ce week-end là, jusqu'à la fin du mois, il y a des événements partout. Là, même sur la vallée, il y en a vraiment partout, donc c'est super chouette. Ouais. On sent que les gens ont besoin de se rassembler, de faire la fête, d'aller voir des spectacles. Donc c'est chouette, on est content.
Alors organiser comme ça un festoche sous chapiteau, c'est rigolo ça. Ça demande des moyens matériels, humains, financiers évidemment. Comment est-ce que vous avez réussi un tel pari? Parce que finalement c'est un pari quand même.
Alors ouais, le pari on l'a. Alors on verra. Hein, je te dirai ça le 25 juin au soir. Mais en tous les cas, c'est un gros travail de partenariat. Parce qu'on a la mairie d'Hispaniac qui nous aide alors financièrement par le biais d'une subvention et aussi matériellement. Là, par exemple, ils nous mettent à disposition Barnum. Là, on travaille aussi avec la Pavie qui nous met à disposition des bars, des bancs, etc. On travaille en lien étroit avec le foyer rural des Petits Cailloux qui est co-organisateur sur justement cette fête de la musique. Et je dois en oublier encore d'autres, hein, mais et puis sans compter aussi tous les bénévoles qui viennent nous filer des coups de main, alors prévus, pas prévus, mais au final on se retrouve avec une belle équipe.
Et ça fait du bien parce que c'est vrai que certains festivals se plaignent un peu du manque de bénévoles. Donc allez-y, auditeurs, auditrices, si vous voulez aller filer un coup de main, je suppose qu'il y aura toujours à faire jusqu'au 25 juin, n'est-ce pas?
Exactement.
Alors, il y a un vrai final, d'ailleurs, dois-je dire, le samedi oui. 25 juin. Ah, il se passe énormément de choses, donc évidemment, on va peut-être pas pouvoir tout citer, mais dans les grandes lignes, il se passera quoi ce jour-là?
Mais dans les grandes lignes, on commence par une grande parade festive accompagnée par la Batucada des Petits Cailloux, là, la Batucaillou. Donc, l'idée de cette parade, c'est de partir du bout du village. On invite tout le monde, hein, les parents, les enfants, les adultes, voilà, vraiment tout le monde qui veut venir costumé, déguisé, endimanché. Voilà, l'idée c'est vraiment une grande parade. On est maquillé, on rigole. Nous on aura des petits apprentis circassiens qui seront là aussi pour faire des petites démos. Il y aura l'association de la Source des Femmes qui nous accompagnera avec des danses du monde. Et l'idée c'est de descendre jusqu'au chapiteau et de commencer cette journée par un premier spectacle de parcours par la Monkey Family qui vient d'Alès.
Alors un parcours, ça représente, c'est quoi en fait?
Alors du parcours, c'est de l'acrobatie urbaine, c'est pour ça qu'on n'a plutôt pas l'habitude de voir ça ici.
Mais
l'idée, c'est que cette troupe-là d'acrobates de haut vol vont venir ici, ils arrivent la veille et ils vont nous créer un show sur mesure.
Et puis évidemment, hein, le soir, il y aura les Arts en Mêle, c'est ça, au chapiteau?
Les Arts en Mêle, c'est à 14h justement. Donc moi j'ai appelé ça les Arts en Mêle parce que c'est une espèce de fête un petit peu des arts avec de la danse, avec du cirque, avec du clown, et tout le monde se rencontre autour de ce chapiteau et c'est une succession en fait de numéros et de propositions de différentes compagnies.
J'ai retrouvé mes fiches. À 18h, il y aura l'histoire du crâne.
Oui.
Et ça, par contre, ce sera au parking de l'école, c'est ça? Parking cave, ce que vous appelez?
Le parking des caves, c'est ça, c'est juste en face de l'école publique, ça c'est à 18h. Et on aura également un spectacle d'aérien qui aura lieu dans le jardin du centre culturel.
Et une belle soirée de clôture aussi avec Kraft notamment à 20h30.
Kraft à 20h30 suivi d'un DJ set final avec l'oreille musicale.
Alors j'ai essayé, j'avoue, avec Véron, on a essayé de comprendre les tarifs. Est-ce que tu vas sans doute pouvoir nous aiguiller puisque le Pass Festival, donc juste c'est la journée du 25 juin ou c'est toutes les 3 journées, donc le 10, le 18 et le 25 qui sont à 22€. Alors explique-nous tout.
Exactement. Alors si je me trompe pas, le Pass Festival est à 15€.
En tarif réduit.
Voilà, c'est ça, tarif réduit, 22€ en tarif plein. Ça, ça donne accès à tout le festival, donc de ce soir jusqu'au 25 juin.
Ok.
C'est un grand pack. Et après, sinon, les spectacles sont, alors au tarif unique, je crois que c'est 5€, 3€, sauf la dernière soirée, c'est 12€ et 9€.
Et ça, c'était vraiment l'idée, d'ailleurs, ça fait partie de vos valeurs, de rendre toute cette culture-là, entre guillemets, accessible.
Exactement. Nous, l'idée, c'est vraiment de la rendre accessible au plus grand nombre. Faut pas que le prix soit un frein. C'est pour ça aussi qu'on propose des tarifs réduits qui sont aussi accessibles à un peu toutes les catégories en fonction des situations. Et notre gros souci aussi, c'était, alors on voulait essayer d'aller vers un maximum de gratuité, voire de prix libre. Ça a été une grosse réflexion au niveau du collectif. Mais malheureusement, on s'y est peut-être pris un peu tard aussi, mais en termes de subvention, on pouvait pas couvrir la totalité en fait des spectacles. Ce qui fait qu'on a fait le choix de faire un petit prix, mais de faire un prix quand même, pour aussi pouvoir payer correctement les artistes.
Et alors, évidemment, il y a certains spectacles qui seront participation libre, et ce que vous dites est en conscience. Allez, vas-y, explique-nous ce que ça veut dire.
La participation libre en conscience, c'est-à-dire, nous, par exemple, on regarde un CD, ça coûte 15€, un livre, c'est une vingtaine d'euros, une place de cinéma, c'est 12€. Donc, voilà, c'est un petit peu d'avoir des prix en tête et de se dire, là, je vais voir un spectacle. Je sais que c'est des artistes qui ont travaillé, qui nous proposent une proposition artistique. Et en fait, moi, par rapport au prix existant, qu'est-ce que je considère être le bon prix pour moi en fonction de mes moyens?
Évidemment, alors il y a un partenariat, je suppose qu'on peut appeler ça comme ça, avec le camping des Cerisiers, puisque vous proposez un tarif unique de 5€.
Exactement. Alors, le camping des Cerisiers, en fait, nous met aussi à disposition le pré où on a planté le chapiteau. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir permettre aux personnes qui voudraient venir d'un petit peu plus loin que Kistania qui les alentoure, de pouvoir profiter de la soirée et ensuite d'aller se reposer au camping des Cerisiers.
Évidemment. Vous avez pas oublié les enfants là-dedans, hein ? Loin de là.
Eh non, les enfants, c'était un petit peu notre public cible. Parce que c'est vrai que nous, c'est notre public avec lequel on travaille tout au long de l'année. Donc, c'est en partie aussi pour eux qu'on fait ça.
Alors, je pose évidemment la question à quelqu'un qui a monté un chapiteau et qui fait un festival et tout. Est-ce que tu crois que le chapiteau fait encore rêver comme à l'époque?
Je pense, ouais.
Plus qu'une salle de spectacle en fixe.
C'est cette salle de spectacle ambulante, et puis c'est vrai que c'est une atmosphère particulière, la rondeur du chapiteau, hein, comme disait Annie Fratellini, c'est un rond de paradis dans un monde dur et dément.
Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Je vais finir par une question un peu personnelle. Est-ce que tu penses que la place de la culture en général a toujours la part belle en France aujourd'hui?
Je pense. Après, je pense qu'il faut se battre de plus en plus pour justement rendre cette culture accessible et donner aussi du temps. Alors, tu parlais de la crise, entre guillemets, du bénévolat, mais effectivement, je pense qu'il faut une énergie, et à partir de cette énergie, si les gens ont envie de se raccrocher à ça, ils s'y raccrochent. Et effectivement, la culture, pour moi, elle aura toujours sa place tant qu'il y aura des envies.
Et se battre pour la culture, c'est commencer par aller au festival Chape ou pas Chape à Hispaniac jusqu'au 25 juin. Est-ce qu'il y a un site où on peut trouver toutes les infos?
Eh oui, alors toutes les infos sont disponibles sur le site collectifmom.org, où là, vous pourrez retrouver la programmation détaillée. Après, nous, on a déposé dans pas mal de commerces, un peu là aux alentours, Florac, Hispania, qui a la programmation pour la journée du 25 juin.
En tout cas, on salue évidemment le collectif Mom, Guillaume notamment, on salue Calici aussi, et on salue les petits cailloux. Merci beaucoup, Damien.
Merci, Ben.
Excellent festival et à très très bientôt. C'est cool qu'on ait pu trouver quelques minutes pour se parler. À bientôt.
Oui, merci beaucoup, Ben. À bientôt.
Et voilà pour cette interview qui avait été enregistrée vendredi, qu'on a diffusée ce matin, le festival Chape ou pas Chape. C'est jusqu'au 25. Léo, comment ça s'est passé cette année? T'es en seconde?
Bah écoute, ça s'est bien passé.
Donc l'année prochaine, première?
Ouais.
Et alors, c'est un peu fini les littéraires, scientifiques et tout. Maintenant, c'est un peu à la carte.
Ouais, effectivement, c'est à la carte.
Comment ça se passe?
En fait, on te demande de choisir les spécialités que tu veux, mais apparemment, ce serait pas ça dans tous les lycées.
Ah! Ça a l'air d'être un bon bordel organisé, ce truc!
Ouais.
Donc, comment ça va se passer, à ton avis?
Pour moi, plutôt bien, je pense.
Et tu vas choisir quoi comme spécialité, entre guillemets?
Plutôt littéraire, HLP, histoire géopo et SVT.
Histoire géopolitique, ils font déjà de la géopolitique au lycée, c'est classe. Allez, dans un instant, on part au Sictum qui se trouve juste à côté de la déchetterie. On va parler de compost. On écoute d'abord Java, Le Poil.
Le Poil, chanson réaliste, musique. Chanson engagée. Ça se fait emmerder. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Voyant ses fruits fragiles, à la merci des chacals, il eut une idée lumineuse. Le Poil. Au départ sur terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. L'argent rentrait dans la touffe. J'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal. Elle avait la bouche en cul de poil. On s'est quitté, un poil de l'épouser. Le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rate, ça me barre, ça me pile. Je suis l'ennemi public. Seule vie qu'on torture au rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barre, ça me répile. Dans un monde aseptique, c'est, je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin. Traqué dans les moindres recoins. Coin, coin, je voulais pas finir comme fourniture. Pour perruque, couvre sa chaussure. Par charter, j'ai fui le capitalisme. En Afrique où j'ai eu poiludisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça me répile. Je suis l'ennemi public. Celui qu'on torture au rasoir bique. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Ça me rase, ça me barbe, ça me répile. Dans un monde aseptique, je suis politiquement incorrect. Trop malade, j'ai dû partir. Hey. On aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal. Dans une communauté au Népal, j'ai fondé mon paradis fiscal. Sur une baba coulant sandales. Mais avis à tous les crânes d'œufs, je serai de retour. En 2069, poil aux dents.
Pile poil, 8h53 sur Radio Barthas, comme c'est bien fait samedi. Je suis allé au Sictum, à côté de la déchetterie, pour parler compost. Eh bien, c'était super intéressant. Il s'agissait d'un échange concernant les pratiques et les manières de faire. C'est pas si évident que ça. Et sachez que jeudi, à partir de 9h30, pareil, il y a un nouvel échange, comme ça. Vous pouvez aller rencontrer Léo Martin, qui est chargé du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. On était trois là-bas avec Léo. Eh bien, et sachez aussi que les nouveaux composts devrait arriver au mois de juillet, donc ça coûte 20€ et une petite formation de 45 minutes. Ils sont en bois et tiens, bah c'est par ça qu'on a commencé à parler. C'était samedi rencontre.
Bah là en bois, ceux qui sont dehors, là, celui qui est dehors, qu'on remet au cours des formations, si tu veux, c'est du Douglas imputrescible. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de, à la limite, un peu d'huile de lin.
Ouais, c'est ça.
Mais ils sont super résistants, tu vois, ça se voit. Le bois il est bien épais en plus. Alors c'est moi qui ai fait le parti pris de les commander plus petits.
Ah, c'est génial.
Ouais.
Ah, oui.
Parce que c'est vrai que l'ADEME préconise pour les foyers, pour 4 personnes, ils préconisent au moins le double. Le problème c'est que ça c'est largement suffisant pour jusqu'à 2, 3, 4 personnes. Et en fait, plus c'est grand, plus ça prend l'air. Ouais. Donc plus il sèche vite.
Ouais.
Aussi. Joli, hein. Il fait combien là?
Ça c'est un 200 litres. C'est 200 litres et puis on voit le bois est quand même assez épais. Voilà, ils ont fait quelque chose de...
Ah,
alors si on travaille avec un ESAT, l'ESAT de Sivergol à Saint-Chély-d'Apcher.
Ah d'accord.
Et il y a la menuiserie à côté. Enfin, eux ils ont l'atelier menuiserie, mais il y a la scierie en fait, ils commandent le bois ils commandent le bois là-bas et ils se font livrer en direct. Et voilà. Bon, les chaînettes, ils sont très résistants, mis à part les chaînettes, ça se voit.
Oui.
Là, j'ai mis plein de photos parce que j'ai fait une animation dans l'école au Pont de Montvert la dernière fois.
Ah ouais, c'est bien.
Du coup, c'est ça là. Du coup, je faisais rentrer les gamins à l'intérieur. Ils étaient ravis. Mais même les plus grands, même les 11 ans.
Et alors, il n'y a pas de fond.
Et non.
Pour que les...
Ben, alors, le compostage, ça marche sur le goudron, sur une dalle en béton, c'est mieux sur la terre. Ça communique, ça facilite la communication entre avec la faune montée.
Parce que c'est la question que je me posais. En fait, je le disais, moi, dans mon vieux composteur plastique, si tu veux, le fond est en plastique. Mais je me disais, mais c'est pas bien bon, parce que, en fait, les vers et tout ça, comment ils font pour rentrer
Quoi qu'il en soit, c'est un garde-manger, de toute façon, le composteur, puisqu'on jette de l'organique. Et donc, des fois, tu sais, on voit les vers de terre qui traversent les parkings, on sait pas trop pourquoi. Ils vont venir, de toute façon.
D'accord,
les moucherons vont venir. Au début, c'est les bactéries et les champignons. Et donc après, ben, la chaîne alimentaire attaque tout simplement. Quoi, y a pas...
Mais autant je trouve donc les vers blancs là, donc c'est qu'à parler, autant je trouve jamais des vers.
Des vers comme ça, des lombris.
Des vers des lombris.
Ils arrivent après en général. Ils sont sûrement plus au fond. Est-ce que tu le retournes, tu le vides de temps à autre?
Jamais.
Ouais.
Enfin, c'est pas que je le vide pas, je prends mon compost par les trappes qui sont en dessous et je le mets.
Là, t'en vois jamais là?
Et là, j'en vois jamais. Par contre, j'en ai plein dans mon jardin.
Eux, ils viennent en dernier. Hein. Ils mangent pas les fans de carottes ou ils mangent pas les restes de repas. Quoi. Ils mangent la matière dégradée. Donc, en général, quand elle est bien dégradée, elle est au fond, la matière.
Oui.
Donc, quand j'étais en ville, j'habitais à Bruxelles avant d'arriver ici, j'avais un petit lombris compost, donc c'est un petit, c'est en deux couches, et c'était que des
lombris
comme ça, et on fallait rajouter du carton de temps en temps pour
prendre du carbone. En fait, il faut...
Mais c'était vraiment dans une boîte en plastique, et on récupérait pas la terre pour la mettre dans le jardin parce qu'on avait un trop petit jardin. Mais alors avec ça, vu qu'il n'y a pas de... Tu vois, c'est ouvert là dans le fond, comment tu fais pour garder le lombric dans le...
Ah, mais de toute façon, le lombric, tu l'élèves pas, tu le gardes pas, il fait ce qu'il veut le lombric.
Hein.
Donc si c'est... De toute façon, c'est un garde-manger.
Mais il y a un ordre dans les couches que tu mets ou pas forcément?
Alors, le principe du compostage, c'est que tu jettes la matière organique et tu ajoutes de la matière sèche. La matière sèche, ça peut être de l'herbe séchée, de la sciure, du broyat, de la paille.
Des branchages.
Voilà.
C'est quoi le broyat en fait?
Le broyat,
c'était marqué sur tes fiches là.
Ouais, le broyat, c'est simplement des branches broyées.
Ah oui, d'accord.
C'est des branches broyées qui, avec du coup, plus c'est petit, plus ça sèche vite.
Ouais.
Et en fait, le but, c'est de rajouter de la matière sèche pour contrer l'humidité de la matière organique que tu jettes tous les jours. C'est-à-dire que surtout en été, on a beaucoup de jus. La tomate bien pourrie, elle fait du jus, du sucre, et en fait, il faut contrebalancer avec du sec pour éviter les jus, les mauvaises odeurs et trop de moucherons par exemple. Alors, encore une fois, c'est un garde-manger, donc il y a de la vie. Mais on ne fait pas de l'élevage d'insectes, on n'élève pas des milliers de moucherons. Le but, c'est quand même de dégrader la matière et que ce soit quand même... Si quand on ouvre son composteur, on a une nuée de moucherons, c'est pas du tout le but. Donc, les règles de base, c'est vraiment ajouter de la matière sèche.
Et est-ce que c'est possible? Parce que bon, moi, j'ai pas de jardin à proprement parler. J'ai une terrasse avec un petit carré de jardin. Vraiment, c'est un petit carré comme on fait aujourd'hui, là. Et c'est tout. Donc, en fait, c'est surtout pour moi décomposer la matière de ma cuisine en grande partie. Et un peu les mauvaises herbes, évidemment, mais voilà.
Si t'as la place de mettre le composteur, en soi, ça va marcher.
Oui, j'ai la place, je dois aller chercher de la matière sèche ailleurs.
Alors, la matière sèche, elle est disponible, par exemple... Les menuiseries ont de la sciure par-dessus la tête.
Donc ça, c'est...
Attention avec la sciure, c'est un effet tassant.
Okay.
Mais grosso modo, nous, on assure aussi le sitom, on assure le stock de matière sèche.
Ah, donc on peut venir chercher du broyat.
Ouais, exactement. Exactement. Il suffit de venir sur les horaires d'ouverture de la déchetterie.
Super.
On demande au gardien, il y a soit du vrac, soit des sacs aussi, confection des sacs.
Ouais.
Et nous en fait, on détourne les branchages de la benne, donc ça limite le coût, le traitement des déchets déjà, et en plus de ça, on en fait une ressource. Voilà, le déchet vert, c'est un peu un mot, c'est une ressource.
Je poursuis dans ma culture du broyat là.
Ouais.
Moi, j'ai des haies que je coupe, et pour pouvoir en fait recycler ça, j'ai un broyeur, si tu veux, un découpeur. Je fais des petits morceaux de bois comme ça, que je reprends et que je remets en fait une fois que j'ai mis mes cultures pour éviter que les limaces...
Tu pailles, tout simplement.
Je paille, c'est ça. Alors, soit j'achète du chanvre tu veux, soit j'utilise ça. Donc tu es en train de dire que ça, je peux... Ouais, exactement.
Alors ça, c'est le...
C'est plus décomposé. Oui, c'est ça, oui.
C'est le... En plus, il n'y a qu'à voir par les temps qui courent, il fait chaud, sec, on n'a pas d'eau. Donc en fait, le paillage, c'est une super solution pour garder l'humidité au sol.
Ouais, éviter que le soleil tape. J'ai fabriqué des oya, tu vois, comme...
Cette année,
j'ai fabriqué des oya.
Je ne sais pas ce que c'est.
C'est des espèces de petites cuves en terre cuite que tu enterres dans le sol à côté de ta plante. Okay. Et par...
capillarité.
Voilà,
ça garde l'humidité.
Ça garde l'humidité.
Ah, okay.
Et ça, ah, voilà. Ça achète. Et cette année, j'en ai fabriqué. J'ai acheté deux pots, en fait, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Tu bouches le trou du bas, tu jointes avec du ciment de carrelage. Et en fait, le trou d'en haut, tu remplis, et en fait, ça peut te tenir une semaine.
Ah, donc tu l'as fabriqué toi-même avec deux pots.
Ouais,
de...
regardez sur Internet, il y a des tutos. Et généralement, ils disent qu'un oyas de 8 à 10 litres, ça peut arroser un mètre, enfin, ça peut humidifier un mètre carré.
Si, moi, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais... Je pensais que tu pouvais en mettre un gros pour tout ton...
Par contre, moi, j'ai pas beaucoup de jardin, mais ça réoriente l'organisation de jardin. Moi, j'ai enlevé des troènes qui étaient... j'ai mis des cultures, donc j'avais l'habitude de cultiver en ligne.
Oui.
Et maintenant, en fait, comme j'ai mis mes oyas, j'en ai mis un tous les 1,50 m à peu près.
Ah oui,
enfin, j'ai calculé pour qu'il y ait un rayonnement, ça fait plutôt tous les 1,50 m, 2 mètres. Et en fait, bah, tu mets tes cultures plutôt en arc de cercle autour des... Okay.
Et
je mets le paillage après.
Ouais, mais c'est vraiment, c'est une super solution. Moi, j'en ai mis dès l'hiver là, parce que bon, il faut faire un petit peu attention avec le broyat, la matière sèche comme ça, parce que le principe, c'est que pour dégrader ça, les bactéries, les champignons, ils ont besoin d'azote.
Ouais.
Et donc il faut faire attention quand même, bon c'est sa propre expérience de jardinier, mais à quand tu le poses, à ce que en fait ça aspire pas l'azote du sol. Et si tu as des plants, des jeunes pousses en même temps, ça peut créer ce qu'on appelle la fin d'azote.
Ah.
Dans le temps, ça restitue, l'azote va être restitué dans le sol, mais en fait, pour dégrader cette matière sèche que tu mets, ça va aller taper l'azote du sol, et donc c'est tes plantes à côté qui peuvent en souffrir.
Alors je comprends pas comment tu fais pour savoir ça.
Alors, tu le mets hors période de culture. En fait, il vaut mieux, tu le mets en hiver.
Ah ouais, d'accord.
Comme ça, il commence à se décomposer. Il a tout l'hiver pour se dégrader. Et ça nourrit le sol, ça structure le sol aussi.
Ah, donc là, si je veux en mettre pour empêcher, entre mes salades, pour empêcher que l'humidité se perde...
Il vaut mieux qu'elles soient déjà un peu grandes, en fait.
Oui, elles sont déjà un peu
grandes. Voilà.
Ça, c'est bon. Ça,
ouais,
va, pas,
ça va marcher.
Okay.
Ah ouais,
et même ça, quand tu peux... Bon, celui-là, il est bien sec. Celui-là, il est bien sec, mais quand tu peux, la journée, en fait, c'est du broyat qui a été fraîchement fait.
Ouais,
fraîchement broyé, des branches qui ont été coupées là, qui étaient vertes, qui étaient sur pied, coupées, hop, ça arrive ici, c'est broyé. Et là, en fait, il est encore plein d'azote. D'ailleurs, pour le différencier, c'est facile, il chauffe. Mm. Quand tu as du broyat en tas et que ça crée de la chauffe, en fait, c'est que c'est en train de composter, tout simplement, c'est en train de se dégrader. Et donc, tu as une montée en température.
Et alors, Léo, là, je reviens parce que moi, je n'en mets pas dans le compost. Mais il faut en mettre alors. Qu'est-ce que tu mets comme... Mettons, je fais une tonte, j'ai ça de pelouse, mettons. D'accord. Tu mets un peu de broyat dessus, tu fais l'inverse.
Alors moi, ce que je conseille aux gens, en fait, c'est que ce soit pour ta pelouse ou pour la matière organique que tu jettes de ta cuisine, en fait, c'est quand tu jettes ton seau, quand tu jettes ta matière organique, tu mélanges avec déjà ta base et ensuite tu viens ajouter du broyat.
D'accord.
En quantité, grosso modo, au début, je conseille aux gens de faire 50-50 pour pas avoir de problème. Parce que dans le compostage, on a des problèmes quand c'est trop humide. Quand c'est trop humide, on a les moucherons, les jus, les odeurs.
D'accord.
Donc au début, pour pas être embêté, tu fais 50-50. Et après, avec le temps et la pratique, c'est un petit savoir-faire, un petit apprentissage que tu vas acquérir en fait. Et tu commences à réduire pour faire deux tiers, un tiers. Deux tiers d'organique, un tiers de sec.
D'accord.
Voilà. Mais au début, voilà, quand on est novice, qu'on est...
Okay. En voyant la
tout à fait. On peut regarder le mien, celui que j'ai là, c'est le composteur dont je me sers pour les formations.
Ah oui.
Quand on fait les formations, enfin, tout de suite, vous allez pouvoir me donner votre avis. Comment vous le trouvez là, celui-là?
Ah ben, top.
Il est hyper sec.
Ouais, il est sec.
Il est vraiment hyper sec.
Déjà, t'ouvres, il n'y a pas de moucherons. C'est déjà un signe.
C'est les dosettes, je me disais que ce sont des champignons qu'on poussait, mais non, c'est des dosettes.
Il y a beaucoup de branchages en
fait. J'ai dit, il est super bien ton compost parce que les champignons poussent. Mais non, en fait, c'est des dosettes.
Oui, c'est les dosettes de café.
Mais il est plein de bois.
Il est plein de bois, alors. C'est, en fait, je fais mes formations, donc j'amène mon seau, mais c'est pas vraiment un composteur qu'on utilise. Un petit peu quand on mange ici le midi, on a très très peu de matière organique, de matière fraîche. Il manque cruellement de matière organique, parce qu'à chaque fois que je fais des formations, forcément j'ajoute mon seau, mais j'ajoute de la matière sèche, il faudrait arrêter. En fait, il faudrait une bonne tonte, quelques litres de pelouse pour... il est affreusement sec.
Et donc le compost, ouais, il faut le brasser quand
si
même.
Si tu vas dessous quand même, voilà.
Ah
oui,
il est bien là. Hein.
Regarde.
Ah ben c'est les mêmes.
Ah ben voilà.
Donc ça c'est une cétone. Ouais, on va faire le test de tout à l'heure avec la main. Hein.
Ah ben oui. Ah ben c'est les mêmes.
Là on la sort un peu de...
Ils m'ont suivi.
Mais alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que j'ai raison quand je dis ils ont pondu pendant l'hiver et c'est seulement maintenant ils sont en train de sortir en mode larve ou rien à voir?
C'est une bonne question.
Ça, une larve avec une larve ne se reproduit pas entre elles.
Ça devient scarabée.
Oui, voilà, c'est ça.
Ça devient scarabée, donc après, quel est le cycle, son cycle de reproduction, son cycle de vie, je ne saurais pas te dire, parce que tu en trouves toute l'année dans le compost, en fait.
Ah, toute l'année, ok.
Alors, moi, je reviens sur quelque chose de fondamental que tu as dit. Je reviens sur le broyage.
Oui, toujours, mais de toute façon, c'est le nerf de la guerre, le broyage.
Attends, mais le broyage, tu me dis que tu le mets avant de mettre les cultures. Genre. L'hiver, là, c'est ça m'intéresse. Ouais. Parce que moi, je le mets toujours une fois que j'ai fait mes plans, quoi. Que j'ai planté.
Alors, moi, ce que j'ai fait l'hiver, alors, je sais pas, je suis jardinier novice. Hein,
oui,
j'apprends.
Moi aussi,
On apprend à jardiner dans un livre, mais on le matérialise vraiment dans le jardin. Quoi.
Ah oui, c'est ça sa tête en fait, c'est pas son cul, c'est sa tête.
Ouais.
Ah
ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que tu le mets l'hiver, ça protège la terre en fait. Ça protège la terre et même ça l'enrichit, parce que ça laisse autant le temps au broyat de se dégrader. Pardon. Des fois, moi j'avais peur que ça protège un peu la vermine. C'est les limaces tout l'hiver et tout. Finalement, pas tant que ça. Et la terre, elle est vraiment belle. Là. C'est-à-dire qu'au printemps, elle n'a pas été séchée, cassée par le froid. Là, au printemps, j'ai soulevé le tout broyat que j'avais mis la main dessous. La terre, elle était noire, elle était tendre. C'était super. Quoi.
Et ouais, regarde, elle reste sur le dos.
Ah oui,
elle rampe sur le dos.
Ah ouais.
C'est marrant. Hein.
Alors, et donc du coup, lui, c'est petite tête, gros cul.
C'est ça.
C'est ça l'ami, c'est ça notre ami. Mais bon, moi, je m'en souviens jamais. Vraiment.
Et puis, il est vraiment blanc.
Quand
tu
le trouves, quand on trouve plein, souvent, ça sent pas bon. C'est souvent du hanneton, mais là, bon. Après,
ça fait des années que
pourtant,
je fais des bêtises.
Je pensais que le hanneton, il était aussi en voie de disparition un peu quand même. C'était un peu chaud pour ça.
Je sais, surtout ce que je sais, c'est que le jardinier l'aime pas parce qu'il mange les racines des légumes.
Ah.
Donc le jardinier, en général, quand il voit les larves blanches comme ça...
Il les tue.
S'il a des poules, ça nourrit les poules. Quoi.
Ah ouais.
C'est ça. Moi, je les...
Allez, on va la remettre.
Je les mets à griller pour que les oiseaux les mangent.
Voilà, voilà.
Non, mais je les écrase pas, en fait. Je les mets dans un pot.
Oui, il n'y a pas d'autre, on va dire ça.
Je suis dans un cycle vertueux.
Voilà.
Il y a des agrumes aussi. Ouais, tu peux mettre des agrumes.
Il y a des agrumes. On peut... C'est une fausse...
Ouais,
c'est une rumeur. C'est une fausse croyance, effectivement.
Mais ça change l'acidité quand même.
Pas du tout.
Allez.
Pas du tout.
Oh.
C'est vraiment, c'est une légende urbaine, une légende rurale. Ah, c'est en fait, c'est ce qui ont la, une mauvaise réputation, on va dire, c'est les choses qui se dégradent lentement.
Ah, oui.
Et les agrumes, il n'y a qu'à voir, ils sont entiers là. C'est-à-dire que c'est un peu le contre-exemple. On les a pas. Moi, je préconise de les mettre en petit bout.
Oui.
Et plus c'est petit, plus vite ça va se dégrader, tout simplement. Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est vraiment pareil pour tout. Il faut garder à l'esprit que plus c'est petit, plus ça va être facile à dégrader. Et donc, les agrumes ont la vie dure par rapport à l'acidité, soi-disant, mais c'est pas du tout le cas.
Ah, d'accord.
D'ailleurs, quand on a des brûlures d'estomac, on conseille parfois de manger un citron.
Ouais, c'est vrai.
Ah bon ?
Ouais.
Donc en fait voilà, moi je conseille aux gens toujours de garder l'esprit que plus c'est petit, plus ça se dégrade vite.
C'est ça.
Donc voilà, après il faut, c'est de la matière organique, ça va se dégrader. Il y a des choses qui sont plus ou moins longues. Là on voit, il y a des coquilles de moules, j'avais mis des moules.
Ah ouais.
Bon, ça va finir par se dégrader. Hein.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'au jardin, si on utilise son composteur tous les printemps qu'on vit dans le jardin, et ben on va se retrouver avec les coquilles de moules ou avec les os de la côte de bœuf. Bon. libre à chacun de mettre ou pas mettre. Les deux questions, quand on fait du compostage, ce qu'il faut se poser comme question, c'est combien de temps j'ai pour laisser dégrader la matière et qu'est-ce que je vais en faire. Si j'ai du temps, mais chaque printemps, je veux vider mon composteur pour amender le sol, dans ce cas-là, c'est ce que je fais moi, je ne mets pas les os et je ne mets pas les huîtres à l'intérieur. Et techniquement, ça finirait par se dégrader. C'est pas du tout un problème.
C'est juste parce qu'après, t'en as l'utilité sur ton sol et donc ça fume des morceaux.
Ce qui est un peu pénible dans le compostage, qui peut être pénible, il faut faire attention, c'est le pain. Le pain, on a tous vu des baguettes pas bouger, devenir bleues.
Oui.
Et bien en fait, si vous les jetez telles quelles, donc pas un petit bout mais entière dans le composteur, elles vont pas bouger et ça va rester là longtemps. Donc pareil, on casse un petit bout. On casse un petit bout et on met là-dedans.
Ouais, d'accord.
Mais là, on voit, il est affreusement sec. On met que des dosettes de café qui sont pas très humides en plus, hein, parce qu'on les a déjà...
Le secret, c'est quand même de garder l'humidité maximum. Ouais. C'est ce que je retiens quand même.
Tout à fait. Et c'est pour ça que le composteur, c'est bien qu'il soit placé en général au pied d'un bâtiment, sous un arbre, au pied d'un mur. Ça va le protéger soit du soleil. Là, on voit, il est au soleil le matin, mais l'après-midi, il est à l'ombre. Et pareil pour les pluies, quand il pleut du sud... Il est un peu protégé parce que s'il est délavé, s'il fait un épisode saisonnel et qu'il pleut pendant 3 jours, ça va commencer à faire du jus ou ça sera trop humide.
Oui, puis je ne sais pas si ça marche pour le compostage, mais tu sais que le bois, on le fait sécher en le mouillant normalement. Hein, c'est pour ça que dans les scieries, en fait, ils arrosent parce qu'en fait, le bois, en fait,
ça accélère la sécheresse.
En fait, le durcissement.
Le phénomène
du bois. Je posais la question de savoir si effectivement ça délavait trop, tu as ton compost peut-être qui sèche encore plus.
Je reviens sur ce compost-là, là. Je reviens sur le fait qu'il a des trous en dessous.
Alors,
si je veux le mettre sur du dur, tu disais qu'on pouvait le mettre sur un parking ou sur une terrasse. Comment
en fait,
tu fais ?
Alors,
ça s'écoule par en bas ?
Ça s'écoule. Enfin, disons que c'est... l'épier, il est sur pied, c'est fait pour laisser passer l'air. Parce que le compostage, principe de base, c'est de l'organique, du sec, de l'humidité et de l'air. Ouais. Parce que les bactéries, les champignons qui commencent à dégrader la matière, la vie a besoin d'air. Mmh. Si le compostage, il n'y a pas d'air, ça finit juste par se tasser et ça ne marche pas.
Okay.
Donc il faut... La petite maintenance, en fait, c'est de mélanger de temps en temps.
D'accord.
Pas forcément de remuer tout le composteur. Encore que sur certaines périodes ça peut valoir le coup.
Okay.
Mais du coup, en fait le problème c'est la base.
Oui.
Quand il est vide comme ça que tu vas le mettre sur ta parcelle sur ton bout de béton.
Je vais mettre mon déchet sur la terrasse quoi.
Ça va. Tant que tu n'auras pas les 10 ou 15 cm de base, effectivement, mais après une fois que tu as de la terre, mais rien n'empêche de venir mettre un seau de terre au fond.
Oui, c'est ça.
Alors ce que je conseille aussi des fois, c'est un petit tapis de branches. Alors pas 20 cm de branches, mais un peu de branches. Et on vient jeter la matière organique dessus, la matière sèche, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à avoir cette base. Et après, on mélangera et voilà. Mais là, c'est vraiment fait pour laisser passer l'air. Bon, après, l'air, il passera quand même.
En plus, le fait de faire un petit tapis de branches, ça permet aussi de créer cette base d'air.
Exactement,
d'air.
Alors, les questions techniques, là. Oui, parce que c'est la question que j'allais poser, parce que normalement, le compost, il est en bas. Qu'est-ce que c'est qui... Et tu ouvres par où là ? C'est ça là sûrement, c'est ça là. Je pense que c'est ça là, ils sont dévissés là pour...
Alors,
c'est ça là.
Hein. Ils ont été... Moi j'ai pas été partie prenante dans la conception, mais je les ai trouvés géniaux pour ça.
Ah.
En fait, il y a juste à dévisser. La fameuse clé étoile qui est de plus en plus en vogue avec Persona.
Oui.
Et t'es d'accord que t'enlèves celui du bas ?
Exactement. Hein ? Alors le... Pareil, la légende qui veut qu'on met on a une petite trappe pour tirer ce qu'il y a dessous sans enlever ce qu'il y a dessus. Je vous mets un peu au défi de faire sans vous.
Moi, c'est ce qui se passe. Hein.
Ouais.
Donc, et d'abord, il faut que je monte dans mon composteur pour faire descendre le.
Quand on vide le composteur, on enlève les deux faces. Là, je dis deux faces parce que sur les nôtres, il y en a deux. Et on enlève la face du haut, on enlève la face du bas, et là en fait on a accès à tout.
Ah c'est génial.
Et quand on a besoin de le vider, on retire la partie du haut qu'on met dans sa brouette, dans son seau, qu'on met même le sol juste à côté, et on tire tout le reste en fait.
Parce qu'on est quand même d'accord que c'est vrai qu'il faut prendre le bas.
Ah oui, c'est le bas, c'est ce qui est le plus...
Et après
c'est ce qui est le plus
matériel. Ce qu'il y avait au-dessus, en dessous.
Voilà, et recommencer le compostage tout simplement.
Et mais... toi tu conseilles de mettre amender le sol comme vous dites,
ouais.
J'avais jamais entendu ça. À quel moment de l'année?
Alors le ce qui est ce qu'on peut faire c'est au printemps. Parce que le compost, le produit fini en fait, comme c'est de la matière organique dégradée, c'est très bon pour les plantes. Et comme il y a du la matière sèche, du structurant, c'est très bon pour le sol. Ouais. Donc en fait de le mettre au printemps, le mélanger à la terre, hein, de faire une base, c'est vraiment et bon pour les plantes et bon pour le sol.
Et tu conseilles de bêcher d'abord et de mettre ensuite le compost
simplement
dessus,
l'étaler dessus. Simplement l'étaler, l'étaler dessus et mélanger sur les 5-10 premiers centimètres. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut faire attention. Le compost, il y a grosso modo deux types de produits finis de compost qu'on a. Il y a celui qui a eu le temps de maturer plus de 6 mois et celui qui a moins de 6 mois. Quand le composteur est plein, des fois c'est pas tout le temps au printemps. Le composteur il est plein, on est en plein milieu de l'hiver. On a besoin de le vider. Et bien, dans ce cas-là, on va enlever les deux faces, enlever la partie haute qui n'est pas encore suffisamment mûre. Et la partie basse, vu que c'est pas le moment du jardin, on peut le mettre au pied, des grands végétaux par exemple. Des haies, des arbres pour les protéger du froid, du vent, du soleil, c'est voilà, c'est aussi.
Alors moi il y a 2 mois, je l'ai mis en sac pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que c'est une préconisation ou est-ce que c'est une idée aussi? Parce que
s'il a suffisamment maturé, c'est pas une mauvaise idée, parce que disons que ça peut le concerner. Après c'est de la terre. Hein, donc,
ouais. Alors après j'ai une autre question, je vais oser la poser.
Oui.
C'est quoi la différence entre le terreau et le compost?
Il n'y en a pas. Le compost il est maison. Le terreau il est souvent acheté dans le commerce.
Oui.
Le compost c'est du terreau maison.
D'accord. Non mais parce que mes voisins qui sont un peu plus jardiniers que moi, ils me disent qu'en fait il faut mettre d'abord le terreau dans la terre plus tôt et le compost, comme tu le signalais, le mettre dessus une fois que les plantations.
Ça joue le même rôle, hein, c'est le terreau. C'est pour nourrir les plantes, c'est pour structurer le sol.
C'est volatile, voilà. Moi ce que j'aime pas avec le terreau, c'est quand tu le mets au-dessus, quand tu arroses, t'as l'eau, elle fait comme ça, ça gonfle ça reste en surface et c'est pas une matière facile.
Après, c'est aussi, ça sert, c'est pour structurer les sols aussi, le problème de l'agriculture moderne. C'est un grand mot, mais on nourrit tellement nos plantes à l'azote, qu'elles ont quand même besoin de carbone pour vivre. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher le carbone dans le sol. Et quand il n'y a plus de carbone dans le sol, quand il se met à pleuvoir, les sols se barrent.
Ah oui.
Et c'est là qu'on a des torrents de boue, en fait, tout simplement. Quoi. Donc, c'est pour ça que ce produit, à la fois de la matière organique dégradée et de la matière sèche, du structurant, du carbone, parce que la matière organique, sans faire trop de chimie, c'est de l'azote, c'est de la potasse, c'est dégradé. Et de l'autre côté, la matière sèche, le structurant, le broyat, c'est du carbone. Et c'est ça qui structure le sol. Donc, c'est... Voilà, c'est très bon pour tout, pour les plantes et pour le sol.
D'accord.
Le terreau joue le même rôle, hein, mais celui-là il est vraiment maison. Quoi. Mais on en parlera au moment de la formation, quand tu recevras le nouveau maître. Dès que j'ai les composteurs, je tiens informé, j'envoie les dates de formation. Les gens peuvent choisir. Ils s'inscrivent et ils peuvent venir et ça dure 45 minutes et ils repartent avec le composteur.
Et là t'as encore y en a encore de disponibles des...
Là j'en ai plus de disponibles mais j'espère qu'ils seront là début juillet.
Mais sur ceux de début juillet.
J'en ai encore disponibles, effectivement, ouais. Super. Ouais, tout à fait. Les gens peuvent s'inscrire, alors il suffit d'aller sur le site internet du SICTOM. On a des rubriques, il y a une rubrique actualité, il y a des articles sur ce qu'on fait et aussi voilà du coup sur les composteurs. Ouais.
Et là, tu refais la même, tu vois, je termine, tu refais la même jeudi prochain, c'est ça ?
Je fais la même jeudi 16, pareil, de 9h à midi. Le même temps d'échange, dans le cadre de la semaine Café Compost, organisée par le réseau Compost Citoyen Occitanie, dont je suis l'ambassadeur Lozère. Parce qu'il y a très... c'est gentil. Il y a très peu d'adhérents en Lozère, donc du coup, ils cherchent à créer un réseau, animer un réseau, mailler le réseau, ou mailler le territoire plutôt. Et donc pour la Lozère, j'ai accepté. Et on se rencontre tous bientôt là, à la fin du mois de juin, pour un peu convaincre, fédérer et...
Échanger,
ouais, voilà. Ces journées, comme il y aura jeudi prochain, c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment pour échanger les méthodes, les techniques, les avis et essayer, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Jean-François. Ça fait longtemps que tu fais du compost ?
Ça fait bien une vingtaine d'années.
Et donc venir ici rencontrer Léo, etc. Ça change ta manière de voir le compost ?
Oui, ça change. D'abord, vu les questions que j'ai posées, en fait, j'ai fait le compost en improvisant, pas forcément en me renseignant. C'était surtout aussi pour éviter de remplir les poubelles végétales et éviter d'aller en fait à la déchetterie, surtout pour la pelouse. Et en fait, je me suis aperçu aussi que c'était intéressant de pouvoir recycler pour mettre dans le peu de jardin que je peux avoir. Alors je précise, c'est sur Clermont que j'habite, donc c'est là où je fais le compost. Et par contre, ici, j'ai une maison une maison secondaire, et en fait, j'ai beaucoup de pelouse. Et vu les contraintes d'ouverture et de passage qu'on peut avoir, en fait, le compost me semble idéal, parce que ça évite de se déplacer, d'utiliser sa voiture, ainsi de suite. Donc, voilà.
Merci beaucoup.
De rien.
Waouh, je me suis fait surprendre. Allez-y, jeudi, à partir de 9h30, au bâtiment, juste derrière la déchetterie de Florac, pour discuter et échanger sur le compost, c'est passionnant. On recevra Léo Martin pour parler tri, pour parler déchets, pour parler compost, parce que il se passe plein de trucs, et vraiment, il est passionné par ce qu'il fait, et c'est vraiment passionnant. Donc, eh ben, c'est la fin de cette matinale, merci Corto.
Et bah de rien, que plaisir.
Et bon retour à la maison.
Et bah c'est gentil.
Après une semaine de pause.
Bon, de pause.
Ouais. Alternatif. Léo, bienvenue.
Merci.
Et on se retrouve mercredi avec Yannick Manche. On parlera de flotte. Ce sera toi, Léo, qui va te coller à l'interview. Tu vas voir qu'il n'y a rien de plus simple. Si j'arrive à le faire, tu vas pouvoir le faire. Tu vas voir, c'est super facile. Il y aura aussi une jolie rencontre et de belles histoires sur les commerces d'antan. Floracois, surprise, ce sera pour mercredi. J'ai hâte de vous faire écouter ça. C'est une très très belle rencontre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. On se quitte avec Jaja. Le morceau, c'est Pépette. Cette phrase est géniale. J'ai toujours rêvé de la dire. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao.
J'étais encore un enfant quand on s'est rencontrés. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où je t'ai roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que je t'aie dans la poche. Depuis, ma vie se résume à une course poursuite. Chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien. En avoir pour son toit j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit. Du chagrin je négro sur la patate. Je croque le toit sauf quand tu craques. J'ai les bourses qui se rétractent. Ta courbe croissante m'enchante. Mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières. Tu parles toutes les langues et sais briser les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu me fais pas de bonheur, procure du plaisir. Mais plus je te désire et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver les rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Ne me quitte pas, il est paraît-il de placement fertile. Donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Et même si ce domaine existe déjà, imprévisible, soudain visible, d'autres t'ont pris pour cible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal je t'ai invité à ma table et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable. Pendant que je me faisais biaiser, d'autres avaient déjà appris à savoir léser. Au début j'étais rongé par la jalousie. Et puis j'ai bien vite compris que tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver mais dans le fond y'a rien. Un palpable liquide tu fonds dans leurs mains. À peine ils tombent tu lormes déjà sur les voisins. Tu les rends possessifs, jaloux, radins et mesquins. T'es parti à la conquête du monde entier. Et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds. Mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette. Mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'es
t'es fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette. Mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. T'as eu tous les hommes à tes pieds. Mais le seul amant qui t'est manqué, c'est la liberté.